Bienvenue dans le podcast Le Travail à la Carte, qui explore les différentes façons de travailler. Je suis très heureuse de vous accueillir et de vous donner des pistes d'inspiration. Je suis Svetlana Baranov et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Tillois. Bénédicte a été durant 27 ans une des dirigeantes de la SNCF. Elle a dirigé les contrôleurs, l'activité Transilien. Elle a été DRH et membre du COMEX. Puis, elle a quitté ce poste à haute responsabilité pour rejoindre une start-up et elle raconte cette aventure de 2 ans dans son livre « La team, le jour où j'ai quitté mon COMEX pour une start-up » aux éditions Duno. Dans ce livre, que je vous conseille fortement et que j'ai dévoré en quelques heures, elle raconte justement, avec beaucoup d'humour et de sincérité, la découverte de ce nouveau monde et surtout, comment elle a vécu cette aventure. Bienvenue Bénédicte.
Bonjour Svetlana.
Alors, il est impossible de commencer ce podcast sans revenir un peu sur ton parcours. Alors, tu as un parcours incroyable, une carrière presque idéale pour certains. Et c'est vrai que la première question que tout le monde se pose, sûrement, en te découvrant, c'est comment on en arrive à quitter le COMEX d'un grand groupe pour rejoindre une start-up.
Comment on en arrive à quitter un grand groupe? On est membre du COMEX, ça fait 2 fois de poste. Et puis, il y a un président nouveau qui arrive et qui décide de remanier son état-major. Il vous fait comprendre qu'il va couper votre poste en rondelles. Et c'est une invitation à aller faire autre chose dans le groupe. Et moi, je reçois ça comme une claque. Je me dis qu'en fait, c'est sans doute le début du placard. Certains me disent que c'est aussi le début du confort. Et je le vois pas comme ça. J'ai envie de pas du tout... me retrouver dans cette situation et donc je décide de partir sans bien réaliser en fait ce qui va m'arriver, c'est-à-dire une fois que je suis partie, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire ? Et il me vient l'idée d'aller faire quelque chose qui est très éloigné de ce que je sais faire, parce que j'ai envie de me remettre en question, j'ai envie aussi de démontrer que je suis ni vieille ni sage. Et comme les startups me fascinent, comme sans doute elles fascinent tous les gens de ma génération, je me dis qu'il faut que j'y aille et donc je vais traîner dans les events qui sont organisés un peu partout et c'est comme ça que je rencontre un fondateur de start-up, en fait d'un incubateur même, et il m'accueille et donc moi je suis ravie et ça démarre comme ça. En fait, je sais pas très bien pourquoi j'y vais, c'est-à-dire je sais pas très bien quel poste je vais y jouer et d'ailleurs il n'y a pas de poste pour moi là-bas. Il faut inventer son rôle et ça démarre comme ça, voilà.
Et justement, dans l'imaginaire collectif, la start-up, c'est l'Eldorado, le monde idéal, où tout est possible. Or, tu le racontes dans ton livre, ton intégration n'a pas été facile. Tu dis à un moment donné, j'écoute, j'observe, j'ai tellement peur d'être à côté de la plaque que je m'assure de ne manquer aucune réjouissance, aucun moment de convivialité. Alors, comment tu expliques que cette intégration, au final, dans un monde qui paraît idéal, ait été, j'allais dire, si compliquée?
En fait, quand j'arrive, on est tellement loin de mes bases, tellement loin de l'univers auquel je suis habituée, que chaque instant est une découverte. Et chaque instant est aussi une remise en question, parce que aucune des choses que je sais faire n'est utile. Et tout ce qu'on me demande de faire, je suis assez démunie. Je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Donc, je me retrouve un peu dans la situation des gens illettrés, c'est-à-dire il ne faut pas faire croire, il ne faut pas faire savoir qu'on ne sait pas. Et en même temps, si on ne fait pas savoir un tout petit peu, on est totalement perdu. Et donc, cette espèce de subtil mélange entre avouer qu'on ne sait pas faire grand-chose et en même temps ne le cacher, ça a été mon quotidien pendant plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines. Et c'est pour ça que ça a été dur pour moi. Et je pense que aucune des personnes qui étaient là ne s'en est sans doute rendu compte. Enfin, j'en sais rien, à vrai dire. Et c'est pour ça que ça a été difficile. Mais en même temps, c'était aussi très cool dans l'ambiance. Mais moi, j'étais pas habituée à travailler dans des ambiances cool. Donc, le cool peut être une remise en question aussi, en fait.
Tu dis que tu ne savais pas faire grand-chose. Pourtant, tu avais derrière toi une grande carrière. Qu'est-ce que ça signifie alors, je ne savais pas faire grand-chose?
Ben, tu vois, quand tu es dans un COMEX, ça fait longtemps que tu fais plus toi-même un certain nombre de choses opérationnelles. Tu as appris au début de carrière à faire, ensuite à faire, ensuite à influencer, et puis au bout d'un moment, tu as perdu le contact avec les gens qui font tout au bout de la chaîne. Et c'est d'ailleurs horrible pour ces gens et pour l'entreprise et pour toi aussi. Et en arrivant dans la start-up, en fait, je m'attendais pas à ce que on me demande de faire des choses aussi opérationnelles. Et c'est la toute première claque que je reçois. C'est-à-dire que je me retrouve à faire comme tout le monde d'ailleurs. Organiser des événements, faire moi-même les invitations, utiliser des logiciels pour le faire, préparer des tables et des chaises, préparer un speech quelques minutes avant de devoir en fait le prononcer. Tout ça, c'était des choses auxquelles j'étais pas spontanément habituée. Et donc, j'ai appris finalement. J'ai appris et ce que j'ai sans doute appris de plus utile pour moi aujourd'hui, c'est ce que ça fait de pas savoir. Parce que dans ma vie d'avant, j'étais celle qui savait. Et quand je faisais des speeches pour parler du fait qu'il fallait se transformer, qu'il fallait innover, qu'il fallait être agile, qu'il fallait ci et ça, je m'adressais à des gens pour lesquels c'était sans doute une très grosse remise en question et j'en avais certainement pas la même conscience que j'en ai aujourd'hui, parce que je vois très bien ce que ça veut dire aujourd'hui, se mettre à faire des choses qu'on ne sait pas faire. C'est extrêmement douloureux parce que, un, on ne sait pas, et deux, on n'ose pas le dire. Et trois, il faut être aidé pour le faire, et demander de l'aide, c'est difficile.
Ouais, je trouve ça passionnant ce que tu racontes. Et justement, d'après toi, au final, pour s'épanouir dans une start-up, quels sont les éléments clés? Et est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières? Est-ce que c'est une question de personnalité, de valeur? Et surtout, j'ai envie de te demander, est-ce que ça s'apprend?
En fait, je pense que pour s'épanouir dans une start-up, il faut faire fi de son statut passé. Il faut oublier qui on était avant. Et il faut se projeter dans le projet et dans le futur tout de suite. Enfin, en tout cas, dans le présent et dans le futur tout de suite. Et se débarrasser de l'image de soi, je pense. Parce que finalement, on n'est pas jugé. Tout le monde est dans la même situation. Il faut être débrouillard. Il faut accepter de faire des choses et de les rater. Il faut dédramatiser le fait de les rater. Et donc, c'est une sorte de mise à nu, je pense. Et il y a sans doute des profils qui sont plus à l'aise que d'autres avec cette mise à nu. Il faut aussi avoir une capacité de leader. Enfin, il faut avoir un leadership assez important parce que faut être prêt à se retrouver devant une salle de 100 personnes et devoir s'exprimer sur un sujet qu'on connaît pas. Alors moi, j'ai déjà été amenée à me présenter devant des publics bien plus importants que 100 personnes, à la différence près que quand je prenais la parole, je savais de quoi je parlais. Et là, je me suis retrouvée dans la situation de m'exprimer devant des publics importants, et ça, c'était pas grave, mais sur des sujets que j'étais quasiment en train de découvrir au moment où je devais les raconter. Et ça, j'ai trouvé ça difficile parce que cette espèce de mantra qu'on entend toute la journée qui est « fake it until you make it », pour moi, ça a été très douloureux parce que le fait de faire semblant, ça fait pas du tout partie de mes valeurs. J'ai l'impression au contraire qu'il faut maîtriser les sujets dont on va parler pour être en droit de s'exprimer dessus. Et je pense que sans doute, je suis pas la seule, hein, c'est sans doute peut-être un trait féminin d'ailleurs, de ressentir ce besoin d'être à l'aise sur un sujet pour s'exprimer dessus. Maintenant, j'ai aussi appris à improviser, peut-être davantage que je ne le faisais avant, même si ça m'est arrivé d'improviser, et de dédramatiser le fait qu'on puisse improviser et éventuellement se tromper en improvisant.
Et justement, aujourd'hui, tu es dans une nouvelle aventure, tu as une nouvelle entreprise, 10h32. Donc, est-ce que tu veux en dire deux mots sur ce que tu fais? Et puis aussi, nous dire si tu le vis différemment ou si ce que tu as appris avant, ça te sert un peu comme leçon dans cette nouvelle aventure.
Alors 10h32, c'est une communauté et une entreprise qui est dédiée aux dirigeants que j'ai montée avec deux associés, qui a démarré le premier jour du premier confinement, et dont l'enjeu est de préparer les dirigeants à diriger autrement dans un monde en émergence. Diriger en remettant en question un plan stratégique qui est prévu à l'avance, un budget qui est prévu à l'avance, et en ayant finalement un cap, une boussole et une capacité à écouter les signaux faibles d'un marché et du comportement de ses collaborateurs. C'est pas facile. C'est une grosse remise en question quand on a été un dirigeant très habitué à utiliser des outils de navigation classiques. Et donc ça s'apprend. Et c'est ce qu'on fait en fait avec la communauté 10h32. C'est on apprend à se remettre en question en tant que dirigeant et à se remettre en question au milieu de son équipe. Parce que se remettre en question personnellement, c'est difficile. Mais le faire au milieu d'une équipe, ça peut l'être encore plus. Et proposer d'ailleurs à chacun des membres de l'équipe de le faire aussi et de le faire ensemble, ça suppose de la confiance en soi, mais en même temps de l'humilité, une capacité à se montrer vulnérable et en même temps être rassurant. Il faut fixer un cap, il faut réassesser ses risques régulièrement et tout ça en faisant quand même du business. Donc, c'est hyper dur. Et c'est le projet de 10h32. C'est pour ça qu'on a besoin de le faire à la fois avec une communauté et deuxièmement d'en faire une entreprise puisqu'il faut une offre de service. Il n'y a pas d'entreprise qui vise qui n'ait pas d'offre de service qui corresponde à son marché. Donc, le fait d'avoir partagé 2 ans la vie de la team, c'est évidemment très utile parce que j'ai l'impression de pouvoir additionner les compétences que j'ai apprises récemment avec celles que j'avais avant, c'est-à-dire de pouvoir proposer à des dirigeants de faire tout ça dans l'agilité, en observant bien un marché et en observant bien la façon de se comporter de ses collaborateurs. Et ça, c'est des choses précieuses que j'ai apprises grâce à la team parce que une start-up, elle grandit pas si elle propose pas des choses qui sont utiles à son marché. Hein. Comme disait Coluche, il y a aucune chance que les choses se vendent si personne n'est prêt à les acheter. Donc, cette capacité à tirer parti de l'observation fine des douleurs que peuvent vivre des clients, c'est hyper indispensable pour être capable de proposer une offre qui corresponde à ce qu'ils ont envie d'acheter, c'est-à-dire qui va leur être utile.
C'est très ambitieux, je pense que... en tout cas, il y a un besoin, je ne sais pas s'il est exprimé, mais je pense que le besoin existe sur le marché. Alors, ce que je te propose, c'est de s'appuyer sur ton expérience dans les deux mondes et d'essayer de réfléchir à ce que pourrait être le monde du travail et de l'entreprise de demain. En commençant par un sujet que je sais que tu affectionnes particulièrement, le management. Aujourd'hui se diffuse un peu l'idée qu'on pourrait se passer du management et c'est ce qui fait un peu rêver certains, en fait, dans l'idée de rejoindre justement le monde des startups. Alors, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'on peut se passer du management ?
Non, on peut pas se passer de management. C'est pas facile d'être un manager.
C'est très clair.
C'est pas facile d'être un manager et peut-être qu'il y a de moins en moins de vocation de manager. Et puis, il y a des gens qui ont sans doute eu des managers qui les ont abîmés. On sait ce que c'est que le management toxique. Pour autant, on a besoin de managers parce que un manager, ça donne un cap et en théorie, ça fait grandir. Je dis en théorie parce qu'il y a des managers qui ne font pas grandir. Et quand ils ne font pas grandir, je ne dis pas qu'ils servent à rien, mais ils font que la moitié de leur job. Pourquoi c'est indispensable ? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui fixe un cap, donne des objectifs et surtout avec lequel on peut partager là où on en est dans la réalisation des objectifs, si ce qu'on a fait est bien et comment on peut progresser. On a besoin d'un alter ego avec lequel on puisse discuter et le manager peut être cet alter ego. Alors je m'aperçois que j'utilise le terme d'alter ego. Un manager, on est dans un rôle de subordination quand on est manager. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver à utiliser ce côté subordination pour faire grandir et en même temps de rester dans une posture d'alter ego pour que la relation puisse être dans la confiance. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de managers qui ont appris ce rôle de subordination qui les conduit parfois à être petit chef. Et puis, il y en a d'autres qui veulent rester dans le rôle de l'alter ego seulement et du copain. Et il faut prendre de la distance quand même avec une personne. Et on peut pas être que copain parce qu'il faut parfois dire des choses difficiles. Et il peut arriver qu'on ait besoin de prendre des décisions qui sont considérées comme impopulaires, mais qui, si elles ne sont pas prises, mettent en péril l'entreprise. Donc, c'est difficile d'être dans ce rôle un peu intermédiaire entre le copain et le chef. Et pour autant, je pense que c'est indispensable, vraiment. Sinon, on se brûle. Il y a des gens qui se brûlent en n'ayant pas de chef parce qu'ils attendent des reconnaissances qui ne viennent pas et ils peuvent continuer finalement à s'épuiser, à les attendre et à ne jamais les voir venir. Et on a besoin, c'est clair, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide à fixer vos limites et à pas les dépasser. Parce que dépasser ces limites, c'est peut-être ce qu'on attend des gens dans les startups, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on perd en fait, on perd son énergie, son enthousiasme, et puis on se perd tout à fait.
Alors, tu as un peu répondu déjà, mais on parle du manager bienveillant, du manager coach et aussi du manager toxique. Quel est, selon toi, l'élément secret pour bien manager ?
Voilà, mon Dieu, c'est une question tellement dure. Je ne sais pas si on peut y répondre avec une vie entière de management. Moi, ce que je dirais, c'est que pour bien manager, il faut être conscient du fait que on s'adresse à la fois à tous et à chacun, et qu'il faut conserver du temps pour chacun, et dans le même temps, savoir que ce qu'on fera avec chacun aura des répercussions sur tous. Et je m'explique, chaque décision qu'on prend, elle est évaluée par un collectif, et donc elle doit être juste et comprise, y compris quand elle est impopulaire. Et en même temps, au sein de ce collectif, il y a des gens qui ont une singularité, et si on ne tient pas compte de cette singularité et qu'on les renvoie à la foule à laquelle ils appartiennent, on nie leur capacité à se développer et surtout on n'en tire pas parti. Donc cette capacité à faire grandir chacun et à s'adresser à tous, pour moi c'est ce qui fait qu'un manager est bon dans l'exercice de ses fonctions.
Et j'ai envie aussi de te poser une question parce que je l'entends souvent dans mon entourage, c'est comment on fait pour travailler avec les millennials ? Ils sont durs à manager. Et c'est vrai que dans ton livre, il y a quelques passages qui sont très humoristiques, mais qui sont très poignants, j'ai envie de te dire, dont notamment un où tu parles de Marcel. Tu dis « Marcel est alternant, sa semaine se partage entre les jours où il n'est pas à l'heure au travail et les jours où il sèche les cours ». Et un peu plus loin, tu dis « Il met les pieds sur la table, il parle fort et définitif et frise régulièrement la correctionnelle, question tête à claque ». Alors, le management des millennials, est-ce que tu as des secrets aussi sur ce sujet ?
Alors, je voudrais pas qu'on reste uniquement sur les citations que tu viens de faire sur Marcel, parce que ce que je dis aussi, c'est que c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et qui est prêt d'ailleurs à devancer les questions pour progresser. Et j'ai beaucoup apprécié le travail de travailler avec Marcel, et d'ailleurs, je continue à voir Marcel, auquel je suis très attachée. Quand j'ai vu arriver les millennials dans mes jobs précédents, j'entendais beaucoup dire qu'ils n'étaient pas gérables, qu'ils n'étaient jamais à l'heure, qu'ils voulaient que les choses se fassent tout de suite, qu'ils n'arrivaient pas à se projeter dans l'avenir. Et en fait, je me suis rendu compte, en étant une senior parmi eux, que eux-mêmes, quand ils m'ont vu arriver, pouvaient se demander, en fait, quel était cet être étrange qui savait pas se servir d'un certain nombre d'outils, qui avait besoin de planifier les choses qu'elle faisait, qui était mal à l'aise avec le fait de faire par soi-même, et que du coup, il pouvait avoir des critiques aussi virulentes que je pouvais avoir eues envers les millennials. Donc en fait, il y a clairement, je pense, des effets générationnels qui sont faits du fait que quand on est petit, on regarde tous le même programme à la télé, on est tous aspirés par les mêmes aventures, et c'est ça qui fait qu'on appartient à une génération. Et clairement, je n'appartiens pas à la génération Pokémon, mais quand je parle du club des cinq aux millennials, il y a un certain nombre d'entre eux ne savent absolument pas de qui et de quoi il s'agit. Donc, c'est important de prendre conscience que on appartient à des tranches générationnelles et qu'il faut faire des efforts de compréhension. Et il y a un travail interculturel à faire, et que ce travail interculturel, il est riche quand on s'en parle. Et c'est ce que j'ai apprécié, en fait, vraiment dans la team, hein, c'est de faire ce travail interculturel. Alors, je le fais avec mes enfants. Mais c'est pas le même sujet, parce que dans la relation avec les enfants, c'est autre chose qui se joue. Mais dans le travail, il y a de la transmission réciproque à faire. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de se dire que on se transmet des choses et que c'est important de les expliciter. Par exemple, on parle beaucoup du Silver Age et du fait qu'il va falloir préparer des programmes pour les vieux. C'est important que les seniors rejoignent les startups parce que c'est potentiellement une opportunité pour elles, les startups et pour les seniors, de travailler sur ce qui sera leur futur assez immédiat avec des méthodes en fait que les millennials pourront leur avoir appris. Et c'est bien aussi si les millennials entendent de la part des seniors un peu des clés pour diriger dans un monde, des grandes entreprises dans un monde qui peut être politique, dans lequel il faut être à l'aise dans la capacité à comprendre des choses qui sont non dites. Donc on a vraiment à s'inspirer mutuellement et à s'hybrider. Et cette notion d'hybridation que j'ai apprise en écoutant parler une jeune femme qui s'appelle Gabrielle Alpern, qui a écrit un joli livre qui s'appelle « Tous sans tort », je trouve que c'est un vrai sujet. Il n'y a que 2,3% de seniors, c'est-à-dire de gens de plus de 55 ans dans les startups. Pour moi, c'est un problème. La diversité, c'est aussi être capable en fait, de faire entrer des seniors dans les startups, comme il a fallu que les millennials intègrent le monde du travail il y a quelques années déjà.
Donc, on a tous à apprendre les uns des autres.
Absolument.
Alors, un autre sujet, c'est un peu la croissance des entreprises, parce que start-up, on s'imagine voilà, le côté up, hein, le côté croissance. Dans le livre, tu parles souvent de la caillasse, que l'objectif de la team, c'est de rapporter de la caillasse. Tu utilises aussi le terme les Rastignacs en Adidas pour désigner les membres de la team. Quel impact ça a sur la culture en entreprise, cette idée que voilà, il faut qu'on se développe, on est potentiellement en danger? Comment on le vit au quotidien?
Moi, ça m'a sauté à la figure, hein, cette idée que, enfin, c'est pas qu'une idée, c'était justement ce côté concret, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y en a pas qui sort. Et donc, et il sort de l'argent chaque fois qu'on doit payer un salarié, chaque fois qu'on doit recruter un freelance, chaque fois qu'on doit investir dans quelque chose. Et c'est extrêmement proche, alors que dans une grande entreprise, ça peut paraître extrêmement lointain. Donc ça apparaît de manière très très immédiate. Et puis ça apparaît de manière encore plus immédiate le jour où on lève des fonds, parce que arrive dans l'histoire des nouveaux, qui sont les investisseurs, et qui forcément investissent de l'argent en contrepartie d'une croissance qu'ils attendent, puisque c'est cette croissance qui va permettre à leur argent de fructifier. Alors la question de la croissance rapide, elle est indispensable dans ces cas-là, mais elle peut avoir elle peut générer un vrai problème, c'est que elle peut un peu piétiner les valeurs qui ont été celles que les fondateurs ou que les premiers pionniers de l'entreprise ont mis en œuvre ou en tout cas ont cherché à se donner pour commencer. Le petit bateau des copains d'abord, ça devient un navire et il faut que le navire flotte et vole, enfin et du vent dans ses voiles. Et le risque, c'est qu'on perde son cap et que la fin justifie les moyens. Et moi, je suis très sensible à la question des valeurs, c'est-à-dire c'est parce que je me reconnais dans les valeurs que l'entreprise me propose que j'ai envie de m'y investir. Et si les valeurs, elles passent après, je me sens assez vite mal à l'aise. Et c'est, je pense, des choses que j'ai en commun, sans doute avec cette génération de millennials dont on parlait. Donc je le ressens vite et quand je le ressens, le risque en fait c'est que ce que je voyais en rose, je commence à le voir en noir. Et c'est un risque en fait dans une entreprise qui croit vite que ces valeurs soient mises de côté ou considérées comme des nice to have alors qu'elles ont été des must au départ. Et ça je pense que c'est un danger que peuvent courir les startups parce que ce qui a permis de croître, enfin, au début, en fait, ne permettra plus de croître dans un deuxième temps. Et je pense qu'une entreprise qui n'est pas attentive à ses valeurs et qui perd potentiellement à un moment ou à un autre ses clients et avant ses clients, ses collaborateurs. Or, les collaborateurs sont les biens les plus précieux de l'entreprise. Avant ses clients, Je suis pas la seule. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent les clients avant les collaborateurs. Moi, j'en suis venue aujourd'hui à la conviction qu'en fait, les biens les plus précieux, c'est d'abord les collaborateurs, parce que c'est en fait par leur énergie que l'entreprise se développe. Et c'est par leur énergie qu'il y a la rencontre entre l'entreprise et les clients.
Alors, je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Et est-ce qu'une fois que la start-up a grandi, au final, est-ce que les différences avec les grands groupes, elles sont encore présentes ou on commence à tendre peut-être vers les mêmes problématiques?
Une grande entreprise, que ce soit un vieux groupe historique, vertical, slash bureaucratique, et Google, ont en commun d'avoir des risques à piloter. Et le fait d'avoir des risques à piloter nécessite de mettre en place des process. Le problème de ces process, c'est qu'ils peuvent venir en plafonner ou percuter les besoins d'innovation. Puisqu'en fait, l'innovation, au départ, c'est quelque chose qui mute. Et quelque chose qui mute, ça remet en question quelque chose qui est conforme. Donc la rencontre entre l'innovation et la conformité, c'est une des choses les plus difficiles à réussir au sein d'une grande entreprise. Les startups sont très douées pour l'innovation. Les grandes entreprises sont plus douées pour la reproduction à l'identique de leur savoir-faire, mais c'est ce qui permet en fait la conformité. Et ma conviction, c'est que pour que les projets d'innovation qu'on met en œuvre puisse passer à l'échelle, il faut que l'innovation et la conformité se conjuguent à un moment donné. Et donc, ça suppose que les cultures de start-up entrent à l'intérieur des grands groupes, mais que la culture des grands groupes rentre aussi à l'intérieur des start-up sans que ni l'une ni l'autre ne perdent leurs valeurs, leur cap et leur culture. Et ça, c'est dur. Et je pense qu'on en est maintenant arrivé à cette étape à franchir. On a fait un peu les premières étapes que je pourrais qualifier de faciles, c'est-à-dire de s'échanger les recettes de l'agilité, de l'innovation, du design thinking. Enfin, tout ça, ça commence à être un peu compris et admis un peu partout. Et maintenant, il faut se confronter à ces process difficiles et aller réinventer en même temps que les risques ne sont pas remis en question. Et c'est là que la capacité à scaler, la capacité à faire entrer dans l'histoire tous les gens qui travaillent sur cette conformité sans les remettre sans les juger a priori comme les ringards de service, c'est indispensable. Et moi, je pense, par exemple, que il devrait y avoir des learning expeditions réciproques. Il n'y a pas que les grands groupes qui doivent aller en learning expedition dans les startups. Les startups pourraient aussi envoyer leurs collaborateurs s'imprégner d'un certain nombre de process de conformité dans les banques, dans les entreprises qui ont des enjeux de sécurité importants. Parce qu'ils verraient que la gestion de cette conformité, la gestion de sécurité, c'est aussi beaucoup d'humilité, capacité à remettre tous les jours ses certitudes sur la table chaque fois qu'un incident arrive et que c'est une forme d'innovation que de rendre ce processus de conformité adaptable à toutes les situations qui sont en train d'émerger. Et je pense que c'est ça qui est devant nous aujourd'hui et qui est difficile à faire.
C'est une super idée ça d'inverser les rôles et de faire des learning expeditions des startups dans les grands groupes. Un autre sujet dont je voulais parler avec toi, c'est la communication, parce que j'ai le sentiment dans ton livre que tu es un peu lost in translation, et tu es pourtant une experte, on peut dire, du dialogue social, puisque tu as accompagné de grandes transitions à la SNCF, mais aussi de grandes crises, peut-être. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué dans la communication au sein de cette entreprise avec ces jeunes start-upers ?
En fait, ce qui m'a manqué le plus, c'est le storytelling de notre histoire à tous, c'est-à-dire le cap régulier raconté et le travail quotidien remis en perspective de ce cap. C'est assez facile et difficile à la fois de le faire parce que forcément, la navigation nous oblige à passer par des hauts et des bas, et la mer est pas parfois un peu démontée. Et j'aurais aimé que dans toutes les situations soit réexpliqué à chaque fois, remis à chaque fois en perspective, que des décisions soient prises, y compris quand elles sont impopulaires, qu'on puisse en fait en permanence savoir où on est et comprendre en fait où va le navire auquel on appartient. Et j'ai souvent eu l'impression d'être seule alors que j'étais au milieu des autres. C'est une sorte de truc très contradictoire, c'est que j'ai été très entourée et j'ai ressenti une très forte communauté de destin avec les personnes avec lesquelles j'ai partagé mon quotidien, dans le même temps que j'ai ressenti une grande solitude liée au fait que cette histoire n'était pas racontée suffisamment.
Et tu as connu les négociations avec des syndicats et aussi la communication directe entre les dirigeants et les salariés avec le tutoiement. Alors, quelles sont pour toi les clés d'une communication réussie entre les dirigeants et les salariés?
Je pense qu'en fait, c'est comme les doigts de la main. Sauf que dans la main, il y a un doigt qui est un peu différent des autres, qui le pousse. Sans le pouce, en fait, les autres doigts sont assez inutiles et réciproquement. Et mon impression, c'est que les salariés et leurs dirigeants doivent pouvoir être comme les doigts de la main. Et ce qui suppose, en fait, de pouvoir se parler en toutes circonstances, l'un jouant un rôle différent de tous les autres, c'est-à-dire d'être capable en fait d'entendre ce qui ne va pas et de chercher de bonne foi à le résoudre. Et les autres doivent être aussi capables de comprendre que certaines choses auxquelles ils aspirent ne sont pas forcément directement accessibles parce qu'on leur aura bien expliqué et qu'on leur aura donné de la perspective. Et ça, c'est difficile à faire.
Merci. Alors, un autre sujet que je voulais aborder, c'était l'apprentissage, parce que quelque part, quand tu rejoins la start-up, tu es dans une logique d'apprentissage. Et on est dans un monde qui évolue très vite. On nous dit sans cesse que les compétences d'hier ne sont pas celles de demain. Alors, comment on fait pour apprendre, pour s'adapter dans ce monde?
Je pense qu'il faut du plaisir pour apprendre. C'est-à-dire, il faut forcément apprendre, ça nécessite un effort. Et cet effort, on ne le fait pas si on comprend pas pourquoi on apprend. Et à quoi ça va servir ces apprentissages. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est-à-dire, je me suis farci des trucs pas faciles, mais ça me faisait trop plaisir de savoir les faire pour devenir autonome sur un certain nombre de projets, pour être capable de m'exprimer, par exemple, de manière très fluide en anglais devant un grand public. Je le raconte dans le livre, j'en ai un peu bavé, mais en même temps, je savais pourquoi je le faisais, et donc j'ai appris. Ce qui est terrible, c'est d'apprendre sans objet, sans savoir pourquoi. Et en même temps, pour apprendre, il faut accepter forcément de s'exposer à pas bien réussir. Et donc, faut dédramatiser l'échec pour apprendre. C'est encore une fois ce à quoi sert le plaisir.
C'est super intéressant. Je partage aussi ce que tu dis, décidément. Et une dernière thématique, c'est le bien-être au travail. Parce que j'ai un peu l'impression qu'on pourrait croire que le bien-être, c'est un peu le précaré des startups, qu'on peut être heureux qu'en startup. Bon, je pense que c'est pas le cas. Mais quels sont pour toi les éléments qu'il faut mettre en place en fait pour le bien-être des salariés? Et au final, existe-t-il une recette miracle ou c'est un peu au cas par cas?
Alors, la première clé du bien-être au travail, c'est de pouvoir bien travailler tout court, c'est-à-dire d'avoir à sa disposition le cadre et les outils et les relations avec les autres qui permettent de réussir les projets sur lesquels on est. Et il y a beaucoup de salariés à qui on refuse ça. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont pas accès aux bons outils, ils ont des relations avec les autres qui sont difficiles, ils ont l'impression qu'en fait, ils veulent bien faire, mais tout leur est rendu plus compliqué. Bon, c'est déjà ça. Et si avec ça, ça serait formidable. Et c'est pas parce qu'on va mettre une corbeille de fruits à côté ou un baby-foot qu'on va résoudre. Si on résout pas ça, il se passera juste rien. Ça peut même être développer du cynisme chez les gens. Et après, je pense que c'est aussi essayer d'être le plus transparent possible dans les contraintes qu'on leur met dans leur existence qui est forcément faite du privé et du professionnel. Si on est capable de rendre le plus transparent possible les contraintes associées au travail, je pense qu'on les aide pour qu'il y ait du bien-être. On a vu d'ailleurs que les contraintes de déplacement on s'était farci des contraintes de déplacement qui étaient monstrueuses avant et que sans doute on aurait du mal à se les farcir encore le jour où les choses redeviendraient entre guillemets normales après les confinements successifs. Et en même temps, on s'imaginait pas à quel point on avait autant besoin des autres, et ça fait aussi partie du bien-être au travail que d'avoir de l'informel dans son travail. Et je pense qu'il y a quelques temps, on l'aurait probablement pas mis en tête des choses indispensables au bien-être au travail, de laisser de la place pour l'informel et pas tout vouloir en rendre productif a priori. L'informel, en fait, est une condition du bonheur au travail, je pense. Et pardon d'utiliser ce terme de bonheur, tu as utilisé le terme de bien-être qui me va mieux, parce que ça ne me semble pas être la responsabilité de l'entreprise de contribuer au bonheur des individus, mais à leur bien-être, oui.
Merci beaucoup. Et j'ai envie de terminer par à la fois un clin d'œil à ton livre, par le titre et par le fait que tu te moques souvent tu évoques souvent le vocabulaire des jeunes que tu n'as pas toujours compris du premier coup. Et j'ai envie de te demander, est-ce que du coup, tu es plutôt team start-up ou team grand groupe aujourd'hui ?
Team les deux. Je me sens, en fait, ce qui est vraiment super, c'est que je me sens capable d'évoluer dans un monde comme dans un autre et surtout, depuis le monde où je suis, être capable d'expliquer l'autre et de le rendre accessible. Et pour utiliser une comparaison, enfin, c'est quand Napoléon a découvert la pierre de Rosette qu'on a été capable de comprendre les hiéroglyphes. Je me sens un peu la pierre de Rosette parfois. Et mon objectif, en fait, maintenant, c'est vraiment d'être un pont, un lien, une connexion, un accès entre ces deux univers et essayer de les sortir de la caricature dans laquelle ils sont pour les autres, de façon à ce que ça donne envie de rendre fluide le passage de l'un à l'autre et l'apprentissage de ce que chacun peut apporter de meilleur à l'autre.
Merci beaucoup. Je te remercie énormément pour ton temps et d'être venu et de nous partager, en fait, j'allais dire toute ton expérience. C'est vraiment très enrichissant et très inspirant. Je vous rappelle le livre de Bénédicte pour en savoir plus, La Team, le jour où j'ai quitté mon COMEX pour une start-up aux éditions Juno, dont je vous conseille vraiment la lecture. Il y a vraiment beaucoup d'humour. C'est un super moment à passer. C'est un plaisir à le lire. Et une fois de plus, voilà, je te remercie, Bénédicte, d'être venue. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le sauvegarder, à le liker sur vos plateformes préférées et à le partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à la prochaine fois.